Analogiquement, ce qui est vrai pour le corps, c'est aussi vrai pour l'âme. Ça veut dire que si une âme est bien nourrie, si une âme a une bonne hygiène de vie, donc ce qu'on appelle la discipline de vie, hein, nos frères protestants utilisent ce terme, discipline de vie, ça vient dans le mot, c'est le mot disciple. Il n'y a pas de disciple sans discipline. Il n'y a pas de disciple sans discipline. Et donc, si on a une bonne hygiène de l'âme, ça va fortifier l'âme et les agressions extérieures que peuvent constituer les difficultés, les contrariétés, les tribulations, les épreuves, vous appelez ça comme vous voulez, ou les persécutions, bien l'âme aura des ressources en elle pour pouvoir réagir et résister. Oui ? Alors, une petite illustration. On va parler aujourd'hui, en ce jour de la Transfiguration, du grand prophète Élie. Et c'est au chapitre 19 du premier livre des rois. Le roi Achab avait rapporté à Jézabel comment le prophète Élie avait réagi, comment il avait fait égorger tous les prophètes de Baal. Alors Jézabel envoya un messager dire à Élie, « Que les dieux amènent le malheur sur toi et pire encore, si demain à cette heure même je ne t'inflige pas le même sort que tu as infligé à ces prophètes. » Devant cette menace, Élie se hâta de partir pour sauver sa vie. Arrivé à Beersheba, au royaume de Juda, il y laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, il vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson et demanda la mort en disant « Maintenant, Seigneur, c'en est trop. Reprends ma vie, je ne vaux pas mieux que mes pères. » Puis il s'étendit sous le buisson et s'endormit. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Il regarda, et il y avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d'eau. Il mangea, il but et se rendormit. Une seconde fois, l'ange du Seigneur le toucha et lui dit « Lève-toi et mange, car il est long le chemin qui te reste. » Élie se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Alors, c'est un texte un peu étonnant. À l'époque de Élie, le prophète Élie, la majorité, la grande majorité du peuple de Dieu a rejeté le peuple, le Dieu d'Israël. C'est une époque d'apostasie. Un petit peu comme ça arrive tranquillement dans les pays d'Europe occidentale. Donc le rejet de Dieu, et on préfère le culte des idoles cananéennes, qu'on appelle les Baals, masculines, et féminines, les Astartés. Il va y avoir un grand affrontement, dans le chapitre précédent, où Élie va provoquer finalement une sorte de confrontation spirituelle sur la montagne du Carmel, entre les prophètes de Baal et lui qui est le tenant du Dieu d'Israël. Et les prophètes de Baal vont invoquer leur divinité, etc. Rien ne se passe. Et après, Élie va invoquer le Dieu d'Israël et pour montrer que Dieu est un Dieu vivant, un Dieu qui écoute les prières, un Dieu agissant, Dieu fait descendre le feu du ciel sur l'Holocauste qui a été préparé par le prophète. Et à ce moment-là, le peuple d'Israël ne dit pas simplement « c'est super, c'est merveilleux », mais il proclame sa foi en Dieu. « C'est le Seigneur qui est Dieu, c'est le Seigneur qui est Dieu. » Donc il y a un retour du peuple d'Israël grâce à cet événement extraordinaire. Et cet épisode se situe juste après. Donc Élie a remporté une super victoire pastorale. Donc au niveau de la mission, c'est extrêmement fécond. Et le peuple d'Israël, qui s'est rendu compte qu'il a été fourvoyé par les prophètes de Baal, les zigouille les 450. Bon, c'était un autre temps, il n'y avait pas encore le message des béatitudes. Bon, et alors, donc tout le clergé diocésain de la reine Jézabel est éradiqué, il n'y a plus rien. Bon, alors...